libradio.org, www.libradio.org, www.libradio.org.
Voilà, nous sommes donc en direction publique. Bienvenue Mahou, merci de nous recevoir et de prendre du temps sur ce vernissage de ton fanzine autour de l'expédition. Expédition qui pour de vrai a eu lieu puisque toi-même tu t'y es rendu. Et toi-même, si je ne me trompe, mais tu me démentiras si je me trompe, tu es une membre active de la Swiss Cetacean Society.
Alors merci déjà de me recevoir. Alors oui, effectivement, j'ai fait ce fanzine BD après être partie en expédition avec la Swiss Cetacean Society. Donc c'était dans les Baléares et puis on était 7, enfin 8 du coup avec moi, sur un bateau. Et on était employés à aider la recherche sur les cachalots.
Alors on va revenir là-dessus, mais avant cela, je voulais te questionner, et j'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à pourquoi pas le faire également via, comme je disais tout à l'heure, la page Facebook ou le mail. Donc la page Facebook c'est la comète à la banane, le mail c'est info@libradio.org. J'aurais voulu te questionner un petit peu sur justement qu'est-ce que c'est que de faire de la BD, d'où t'es venue cette idée?
En fait c'est un petit peu par hasard. J'ai commencé quand je suis arrivée à Lausanne, j'étais étudiante, donc j'habitais en colocation avec beaucoup de personnes. Et puis j'ai commencé à mettre en scène des petites scènes qui se passaient dans notre colocation via un blog. Et puis après, j'ai gagné un peu par hasard un prix à BDFIL en 2013. Et du coup, j'ai rencontré un éditeur et j'ai continué à bosser sur la planche que j'avais faite pour faire toute une BD. Et puis c'est un petit peu comme ça que c'est venu.
D'accord, donc un petit peu par hasard d'une certaine manière, mais en même temps, ça a dû remplir ta vie. Puisque, en vis-tu ou l'idée, est-ce que l'idée serait d'en faire un métier ?
Un métier, oui, mais un métier parmi d'autres. En fait, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses différentes, donc j'aime bien avoir plusieurs métiers et faire des choses complètement différentes.
D'accord. Voudrais-tu nous dire quelques mots justement de la situation de la BD en Suisse, romande, à Lausanne, à Genève, puisque si j'ai bien compris, tu es un petit peu à cheval sur les deux villes.
Je suis surtout à Lausanne en fait. Je suis un peu par hasard à Genève, mais bien sûr, comme c'est pas très loin, ça m'arrive aussi souvent d'être à Genève. Mais le milieu de la BD, disons qu'il, comme c'est la Suisse est aussi un plus petit pays par rapport à la Belgique ou à la France, les éditions sont moins grosses, donc peut-être qu'on imprime moins d'exemplaires, donc on en vend moins forcément, on est moins diffusé. Mais sinon, c'est aussi agréable dans le sens où, comme c'est aussi un petit pays, tout le monde se connaît un petit peu, il y a beaucoup de contact qui se fait avec les gens, c'est aussi plus facile de trouver des endroits où exposer, enfin voilà, c'est plus familial entre guillemets.
D'accord. Là, le sujet que tu touches est un sujet sensible, important et d'une certaine manière politique, pourrait-on dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui habite souvent ton ou tes univers ?
Alors oui, effectivement, un peu aussi par hasard, c'est pas forcément mon objectif à chaque fois de faire des pamphlets ou quoi que ce soit, mais je m'inspire beaucoup de la vie quotidienne, du coup il se trouve qu'à chaque fois je montre ou je mets en avant des choses qui peuvent effectivement être interprétées comme des caricatures. Par exemple, la première BD que j'avais faite c'était Age, et puis ça parlait de quand j'avais travaillé en tant qu'étudiante à IEA, en tant que caissière, donc c'était à chaque fois sur le ton comique. Mais voilà, on peut aussi dire qu'il y a une critique de la société de consommation, etc. Et puis la deuxième BD que j'avais faite, c'était sur quand j'ai travaillé en tant que graphiste dans une fédération sportive internationale. Donc un petit peu les travers du milieu du travail en bureau pour une génération qui est un petit peu perdue dans cet univers-là.
Très bien. D'accord. Et dis-moi, comment surgissent les thèmes que tu vas ensuite dessiner ? Est-ce que tout d'un coup, c'est ton cheminement, ton parcours de vie qui fait que voilà, tu tombes sur quelque chose et puis que cette chose te touche et que tu la mûrisses un peu en toi et que tu la ressortes en dessin ? Ou de quelle manière est-ce que ces univers justement surviennent ?
Effectivement, c'est à chaque fois des choses qui se passent dans ma vie et j'aime pas tellement raconter les choses à l'oral, mais j'aime bien les faire ressentir en faisant un dessin. C'est-à-dire que si je veux raconter une histoire, la personne qui est en face de moi va pas forcément comprendre ce qui s'est passé, tandis que si je fais un dessin et que je montre vraiment la situation, et en plus si j'arrive à la faire rire, c'est encore mieux, mais voilà.
Alors est-ce à dire qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours,
hein ? C'est ça.
D'accord, ok. Dis-moi, le choix, je voulais te questionner sur le choix des matériaux. Alors quand je dis matériaux, c'est le support. Et également la manière dont tu fais ce dessin-là. Alors on a vu que c'était un choix du noir et blanc, ça c'est constant. Et est-ce que ça restera ?
Alors pour l'expédition, effectivement c'est en noir et blanc, mais tout simplement parce que j'ai fait tous les dessins sur le bateau. Et puis comme le bateau était très petit, il fallait prendre très peu d'affaires. Donc j'ai juste pu prendre un carnet et puis un stylo. Et puis j'ai travaillé comme ça.
D'accord. Donc là, c'est l'occasion qui a produit cette machinerie-là. Mais ça, ça peut changer. C'est quelque chose qui... Enfin, voilà. Est-ce que de ce côté-là, tu préfères le crayon, le stylo, l'encre, le noir et blanc ou pas du tout? Et sinon, quoi d'autre?
Non, pas du tout. En fait, bah, les deux premières BD que j'avais faites étaient... La première, en tout cas, sur IEA, était en couleur. La deuxième, effectivement, était en noir et blanc et en rouge. Mais c'est surtout le traitement qui a changé parce que dans les deux premières BD, j'avais un mélange de gouache, mais aussi de dessin vectoriel. Tandis que là, j'ai décidé vraiment de revenir à un dessin à la main.
Ouais, absolument. Les matériaux, en tant que support et les formats, ça, c'est quelque chose qui te convient? Tu as trouvé déjà... Est-ce que pourrait-on dire que tu as trouvé ta vitesse de croisière ou bien ça, c'est aussi des choses qui pourraient être amenées à changer?
Non, ça change constamment, en fait. Vraiment. D'accord. Tout le temps.
Donc, ça peut être du papier, mais autre chose, et puis des tailles différentes également.
Exactement.
D'accord. Qu'est-ce qui fait que ces changements-là apparaissent? C'est vraiment intuitivement, instinctivement que le dessin prend, voilà, devient un peu plus grand ou un peu plus petit ou...
Pour le bateau, c'était juste une question de, voilà, de taille. Ouais. Mais sinon, je suis en train de travailler actuellement sur un nouveau projet de bande dessinée, bon, qui va prendre du temps. Mais là, du coup, c'est des très très grands formats, mais parce que je fais à l'encre. Et puis forcément, bah, c'est plus facile de dessiner plus grand, même si après la bande dessinée est plus petite. Puis même au niveau du détail du dessin, si je dessine plus grand et puis qu'après il est rapetissé, ben, le dessin aurait l'air... une meilleure définition, en fait.
Bien sûr. Dis-moi, pour les profanes comme je suis, voici une question qui pourrait peut-être, qui est peut-être complètement bête, mais voilà. Quel temps prend un dessin? Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que ça compte? Est-ce qu'il y a une manière de dessiner immédiate qui va donner une tonalité au dessin? Ou est-ce que c'est plutôt, on prend une esquisse quand on est quelque part et qu'ensuite on le travaille et que le dessin mûrit lentement et se produit lentement? Ou est-ce qu'il y a les deux?
Je pense que ça dépend beaucoup des gens. Personnellement, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, j'ai envie de l'avoir fini tout de suite. Donc, même si c'est pas toujours possible. Mais par exemple, ben, les deux premières BD que j'avais faites, en fait, la première sur IEA était inspirée de la planche que j'avais rendue pour ce concours pour BD Fil. Et comme je m'étais prise la veille pour rendre cette planche, j'avais pris une technique qui était pour moi la plus rapide. Et puis après, j'avais continué à travailler dans cette technique. Et puis, c'est pour ça qu'après, je me suis dit quand même, j'ai toujours aimé travailler à l'encre, à l'aquarelle. Il est temps d'arrêter d'être flemmard, entre guillemets, et puis de retravailler à la main. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, ça me prenait autant de temps de faire à la main que de faire
d'accord.
en direct.
Mais donc, le dessin, pour toi, il faut que ça aille quand même relativement vite.
J'aimerais bien, mais bah, j'ai envie que ça aille vite, mais ça prend quand même... Bon, l'expédition, ça prenait moins de temps parce que j'étais sur le bateau. Mais par exemple, pour les planches de IEA, je mettais quand même entre 8 et 16 heures par planche pour le finir.
D'accord. Y a-t-il une esquisse, un brouillon qui précède le dessin final?
Oui, je fais un petit croquis. Après, ça peut être vraiment très très vite où le bonhomme, c'est un rond et deux bâtons. Mais en tout cas,
et puis après, tu reprends dessus ou tu refais?
Je refais dessus.
Ouais, ouais. Ok, j'ai compris. Si jamais donc, si des questions surgissent, vous savez que les micros sont ouverts. Je dis ça pour les personnes... Pardon, qui sont autour de nous. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations-là. J'aurais encore voulu, avant qu'on entre vraiment en matière sur le vernissage d'aujourd'hui, que tu nous dises, puisque toi-même, tu travailles également avec d'autres entités, telles que la bûche, pour la cité. Est-ce que c'est compliqué de se faire publier à Genève, en Suisse, à Lausanne, concernant la BD?
Je pense qu'il faudrait voir peut-être au cas par cas. Parce que je sais que c'est toujours quand même compliqué de se faire éditer. Après, il y a aussi la question de trouver un éditeur suisse ou trouver un éditeur plus loin. Donc ça, c'est aussi problématique. Mm-hmm. Je sais qu'ils reçoivent beaucoup de dossiers. Puis en même temps, je me sens aussi un peu comme un imposteur dans ce sens-là. Parce que j'ai eu la chance de tomber directement sur l'éditeur avant même d'avoir commencé la BD. Donc...
Je sais qu'il y a beaucoup de gens
qui malheureusement n'ont pas cette chance et c'est vrai que la bûche, les fanzines, beaucoup d'associations aussi à Lausanne essayent de mettre en valeur les nouveaux créateurs pour justement les aider à se faire publier, donc je pense que c'est peut-être plus facile que si on est dans une ville comme Paris ou Londres où là il y en a encore plus et puis,
C'est une énorme concurrence, c'est ça que tu dis, hein, voilà. D'accord. Créateurs et créatrices, qu'en est-il de la place des femmes justement dans le monde de la BD?
Oui, je fais partie de la Bûche, c'est une association qui a été créée parce qu'on s'est rendu compte en allant sur les festivals de BD que tous les auteurs masculins se connaissaient déjà tous entre eux. Et puis que finalement, nous, en tant que femmes auteurs de BD, on ne se connaissait pas. Et puis, il y avait cette envie de se rencontrer, de faire quelque chose ensemble et puis de créer un réseau. Et ça marche très bien. Là, ça fait 4 ou 5, cinquième année, peut-être qu'il y a la bûche qui existe. Puis là, on est en train de penser justement à une nouvelle formule pour le prochain numéro.
Et j'espère que vous viendrez en parler.
Avec plaisir. Et puis, ça marche vraiment bien. Enfin, là, récemment, il y avait le festival aussi Les Créatives à Genève. Donc, on nous avait demandé de venir 2 bûcheuses par jour pour faire des reportages dessinés. Donc, c'était hyper bien. J'ai vraiment rencontré plein de filles de la bûche. On a dessiné toute la journée. Enfin, c'était vraiment une bonne occasion de faire des choses ensemble.
C'était effectivement fantastique. On a pu faire une petite interview près de Papier Gras concernant justement cet événement-là. Est-ce à dire que les créatrices de BD sont pléthores, qu'elles sont actives sur la scène suisse romande? Il y en a beaucoup, il y a du talent, il y a des choses à faire.
Oui, il y en a énormément, il y a beaucoup de talent. Je pense que le seul souci, c'est qu'on a moins confiance en nous, en fait, peut-être. Ouais. Mais aussi vivre, que ce soit homme ou femme, faire de la BD, c'est toujours hyper compliqué, parce que c'est un petit peu, on rigole entre nous, parce qu'on se dit, oui, heureusement qu'on a un vrai travail pour payer notre hobby de dessinatrice de BD, parce que sinon, on s'en sortirait pas.
Ouais. Alors, où trouve-t-on, comment peut-on trouver ton travail? Est-ce que tu as un site internet sur lequel on peut voir 2-3 petites choses?
Oui, j'ai un site internet, c'est maou.ch, donc maou.ch, où on peut commander les BD.
D'accord. Et de la même manière, on peut te solliciter si tout d'un coup, quelqu'un, une auditrice, un auditeur souhaiterait organiser une exposition avec, pourquoi pas, ton intervention également. Ça, c'est possible.
Exactement, avec plaisir. Et puis, si quelqu'un veut acheter une BD et puis veut une dédicace, c'est aussi possible.
Ah, très bien, très bien. Eh bien, c'est bon à savoir. Alors, venons-en maintenant au vernissage de ce soir. L'expédition, voudrais-tu nous raconter comment est née cette idée? Comment tu dis, je pars et je vais dessiner des cétacés, et notamment des cachalots?
Alors, j'ai toujours adoré les animaux, et puis particulièrement les animaux marins. Par hasard, une fois, j'allais à mon cours de pole dance, et puis en face de la porte du cours, il y avait un panneau avec toutes les sortes de cétacés. Donc, je me suis intéressée à ce panneau et je me suis rendu compte qu'en face, il y avait le siège de la Swiss Cetacean Society. Et donc, j'ai vu un peu de la lumière et je suis rentrée.
Ah ouais, donc c'est vraiment
Voilà, vraiment par hasard. D'accord. Et puis, j'ai vu qu'ils proposaient ces formations. Ils proposent en fait une formation pour devenir guide sur ces expéditions. Et donc, ça m'intéressait beaucoup, parce que je me suis toujours dit qu'un jour, je partirais voir les animaux marins, notamment les requins-baleines. Et je me suis dit, c'est un premier pas, même si je suis encore en Suisse, vers la connaissance de ces animaux. Et donc, je suis partie sur une des expéditions pour forcément voir à quoi ça ressemblait. Donc, au début, je n'étais pas du tout partie dans l'optique de faire des dessins. C'est juste au bout de 2-3 jours, je me suis dit, là, c'est plus possible. Il faut absolument que je dessine pour pouvoir raconter ça. Donc là, je me suis lancée et puis j'ai plus lâché mon carnet pendant les derniers jours de l'expédition.
Parce que cette expédition, on le rappelle, elle a eu lieu au Baléares.
Oui.
Sur un bateau. Explique-nous un peu comment était le cadre. Un grand bateau, vous y avez dormi, combien de jours?
On a passé 7 nuits et 8 jours sur le bateau, donc c'était un assez petit bateau quand même, puisqu'il faisait 15 mètres carrés. Il y a un moteur, mais il y a aussi la possibilité de tirer une voile quand il y a assez de vent. Et on était donc 8, 2 personnes espagnoles, 2 personnes, donc le chercheur et puis son assistante, sa femme, et puis 4 Suisses de l'association Swiss Cetacean Society.
D'accord. Et qui étiez-vous à bord? Ce que je parle là, c'est pas c'est en termes de travail, de spécialisation. Y avait-il justement des personnes spécialistes en ce qui concerne les cétacés?
Alors, il y avait de tout. Il y avait juste des gens qui aimaient la navigation, des curieux, des biologistes qui aiment effectivement les cétacés, mais vraiment de tout. Et puis, des jeunes comme des plus vieux, enfin vraiment très mélangés.
Et donc, ça fait partie de cet écolabel que crée la Swiss Cetacean Society autour de ce tourisme qui importune en fait ces grands animaux.
Alors, l'écolabel, c'est encore différent parce que c'est une personne de l'association, donc un guide d'ailleurs de l'association, qui lui va aller souvent en Inde, notamment à Goa. Et il a remarqué que vraiment là-bas, le tourisme de masse mettait vraiment en danger les dauphins, parce que le dolphin watching là-bas est une pratique qui est très, 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 très courante. Et en fait, il n'y a aucune règle qui respecte l'approche des cétacés. Et puis souvent, ils se font encercler, assaillir de touristes, ce qui stresse beaucoup les animaux. Et puis forcément, au bout d'un moment, ils en meurent de ce stress.
Et donc voilà, pour toi, il y avait aussi cette intention-là de soutenir finalement ce projet d'écolabel.
Oui, alors le projet s'est mis en place. Donc forcément, moi, à chaque fois, on me propose des choses, ça a l'air super. Donc je fais oui, trop bien, j'ai envie de le faire aussi. Et donc voilà.
Alors ce soir, les dessins qui sont exposés sont le fruit de cette expédition. ça s'appelle l'expédition justement. Voudrais-tu nous dire voilà, quel type de dessin est-ce qu'on va pouvoir rencontrer aujourd'hui jusqu'à 21h au 25 rue du Vieux-Billard ici à Genève?
Il y a une trentaine, quarantaine de dessins. Ils sont, c'est au format A5, donc noir et blanc. Puis je les ai tous réalisés à bord au stylo pointe fine et puis au feutre noir.
D'accord. Qu'est-ce qu'il va en rester ensuite de ce voyage? Je pense que pour toi, étant membre en plus de la Suisse-Cétacean Society, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un engagement qui ne s'arrêtera pas là.
Non, j'espère. Je continue justement à faire partie activement à travers ce projet d'écolabel. Et j'espère aussi pouvoir partir l'année prochaine, peut-être pas avec la même association, parce que j'aimerais aller un peu plus loin. Et puis, je vous avais parlé aussi avant des requins. Des requins, j'aimerais beaucoup faire un voyage d'éco-volontariat aussi, mais avec les requins baleines.
Est-ce que tu vois, on a cet exemple pour la littérature d'écrivaine du voyage, Ella Maillard, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse peut-être à l'avenir, c'est de partir finalement et de revenir avec des dessins?
Ah oui, complètement, vu que j'ai ce projet en tête de partir un jour faire le tour du monde pendant assez longtemps, et je sais sûrement que pendant cette expédition-là de nouveau, peut-être au bout de je ne sais pas combien de jours, je vais me sentir obligée de commencer à dessiner.
Et puis ensuite, pourquoi pas peut-être en faire à chaque fois des expositions, soit de manière itinérante, soit à chaque fois que tu reviens ici à Genève ou à Lausanne.
Ce serait super. Après, j'ai pas envie que ça devienne que je me sente obligée vraiment de le faire. Mais ouais.
Il faut que ce soit qu'il y ait une occasion voilà, qui crée. Ça. Voilà. Et sinon, la suite de tes aspirations pour la suite de ta carrière au sein de la BD. Comment tu te vois évoluer dans cet univers-là?
Alors là, j'en ai aucune idée.
C'est au jour le jour. Ouais.
Mais je sais que j'ai commencé à travailler sur un projet de bande dessinée avec un auteur genevois qui m'a contactée en fait par hasard aussi, puisqu'il avait vu mes dessins au Salon du Livre. Et lui, ses personnages sont aussi des animaux, sauf qu'il écrit des romans, romans un peu d'enquête. Mmh. Et puis, donc, il m'avait contacté pour faire une adaptation de son roman. Et puis, j'ai commencé à travailler là-dessus, mais le temps m'a manqué, mais ça va venir.
D'accord. Et puis, ce type de fanzine, comme tu proposes aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que tu pourrais reproduire?
Oui, sûrement, ça arrivera. C'est vrai que l'avantage du fanzine, c'est que ça permet quand même de partager avec un certain nombre de gens sans forcément faire une grosse publication type livre, un peu plus lourde.
Et coûteuse. Et la bûche, ça c'est quelque chose aussi pour toi qui est une parmi les centralités de tes activités?
Alors oui, la bûche, effectivement, je participe aussi activement à la bûche, je dors plus beaucoup en ce moment. D'ailleurs, on s'est vu il y a une semaine pour cette nouvelle version de la bûche, mais c'est aussi quelque chose que j'ai envie de garder parce que le contact avec les autres est très sympathique et puis... Voilà.
C'est vrai. Alors dans tout ça, il faut encore avoir le temps justement de laisser surgir à soi l'inspiration. Tu arrives quand même à trouver des moments où justement tu es dans une forme d'apaisement ou d'autres attitudes qui te permettent justement à cette inspiration de surgir?
Pas tellement, mais j'y travaille.
Oui, parce que tu fais tout. En fait, il faut monter l'expo, il faut prendre les contacts, faire la com.
Voilà, puis à côté, j'ai aussi un travail à temps partiel. Je suis encore aussi graphiste indépendante. J'ai aussi un projet de master qui continue maintenant. Donc, ça fait beaucoup de choses.
Ouais, ça fait beaucoup de choses, effectivement. Écoute, en tout cas, on te souhaite bon courage pour la suite des événements. Nous, on va certainement se retrouver tout au long de la journée aujourd'hui, puisque d'autres personnes vont venir intervenir ici à la radio. Y aurait-il une question à laquelle tu aurais souhaité répondre et que je ne t'ai pas posée?
Oula, je suis prise de court. Mais écoute, non,
pour
pas
le
spécialement.
Moment, rien.
Peut-être que je n'ai pas assez expliqué que le fanzine racontait vraiment toutes les petites anecdotes qui se sont passées sur le bateau pendant le voyage.
Ah bah c'est une excellente idée. Aurais-tu une ou deux anecdotes à nous énoncer? Comme ça qu'il deviendrait, sinon on le fait un petit peu plus tard.
Il y a beaucoup d'anecdotes.
Ouais, j'imagine. 8 jours, 7 nuits, 8 jours sur un bateau, dans un espace clos, avec les mêmes personnes, c'est compliqué ou ça va? En termes de tension, est-ce que c'est...
J'avais un petit peu peur aussi au niveau matériel, du style, est-ce qu'il va y avoir des toilettes ou pas? Mais au final, je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé qu'avec des gens qui étaient respectueux et on était tous vraiment sur cette même longueur d'onde. Il n'y a pas eu de fort caractère qui a causé de problèmes ou quoi, donc c'était très agréable.
Parce que vous êtes quand même vu avant, il y a eu quand même une période un peu probatoire comme ça, ou c'est directement sur le bateau que vous avez fait connaissance et durant le voyage que vous avez affiné ça?
Pas du tout, on s'est croisés à la séance d'information voilà, 5 minutes, même pas, juste comme... le temps d'échanger nos numéros de téléphone et de se dire où est-ce qu'on achetait la crème solaire non nocive pour les océans, mais c'est ouais. tout, quoi.
Ok, et puis alors, effectivement, j'imagine que ce projet faisait partie d'un tout, que les personnes qui sont là sont effectivement sensibles aux conditions d'existence des cétacés, mais également, j'imagine, à l'utilisation du plastique, aux déchets qui sont rejetés en mer ou quoi, à toutes ces choses-là.
Oui, effectivement. Après, il y a certaines choses, moi, qui m'ont petit peu surprise aussi, du style jeter les pelures d'avocats dans la mer. Bon, je sais pas trop quoi en penser, mais ouais.
D'accord. non, mais c'est bien. Et puis, est-ce que justement, quand on revient quand on revient d'une odyssée comme celle-là, est-ce qu'il y a un avant et un après ? Est-ce que quelque chose change en soi quant au regard qu'on a sur les différentes choses auxquelles on assiste pendant le séjour ?
Oui, déjà, même si on dit comme ça que c'est que 7 nuits et 8 jours sur le bateau, en fait, quand on y est, on a l'impression que c'est un mois. Je suis rentrée après une semaine, j'ai fait « Quoi, vous n'avez pas sorti les poubelles depuis un mois ?» En fait, non, ça me dit qu'une semaine. Ouais. Mais c'est vraiment, on est hors du temps. Puis c'est vrai que ça aide aussi à réfléchir un peu sur sa vie.
Absolument, j'imagine qu'il y a des temps d'introspection, parce qu'il y a des moments où on met en commun les choses, mais il y a également des moments où... Il n'y avait pas trop de promiscuité, je veux dire, géographique, dans le sens où on dort chacun quand même dans une petite cabine, ou comment ça se passe ?
Alors, on était deux par cabine, donc quand même, les cabines sont très petites, et puis il y a beaucoup de promiscuité, mais après, pendant la journée, en fait, on se relaye par groupe de deux, pour pouvoir notamment conduire, par exemple, le bateau la nuit, il faut prendre certaines données à certains endroits, ouais. à toutes les heures. Mmh. Et puis ce qui fait qu'après, quand ce n'est pas notre tour, entre guillemets, on peut faire ce qu'on veut. Donc on peut aller à l'avant du bateau tout seul et puis regarder la mer.
D'accord. Ouais. Mais il y a quand même des activités à bord, des corvées qu'il faut que chacune et chacun assume.
Oui, clairement. Il y a notamment ces tours la nuit où il faut se lever pour conduire le bateau. Sinon, on a aussi le risque de percuter un plus gros bateau. Il y a un hydrophone qui est placé derrière le bateau et puis qui écoute constamment sous l'eau pour entendre s'il y a des bruits de cachalot. Et puis si on entend des bruits de cachalot, du coup, il faut le suivre. Donc il faut aussi faire ses écoutes toutes les 30 minutes pour savoir s'il y a un bruit de cachalot ou pas. Mmh. Et puis relever ça.
Et alors là, vous avez pu observer effectivement ces animaux ?
Oui, alors on en a vu au moins une quinzaine, on a eu beaucoup de chance. Le premier jour, c'était la tempête, on a vu de loin un cachalot entre deux vagues, mais en plus on était tous malades, on avait tous le mal de mer. Oh. Et puis après, dès le deuxième jour, la mer était extrêmement calme, on voyait presque pas même la délimitation entre l'horizon et le ciel, c'était fantastique, des conditions idéales pour voir les cachalots.
D'accord, et alors effectivement on observe la mer, on observe les animaux, y a-t-il d'autres choses que l'on observe quand on est à bord ? Est-ce que la condition humaine est également quelque chose que l'on observe, ainsi que les cieux et le climat, toutes ces choses-là ?
Alors oui, on observe, y a des oiseaux, on observe l'extérieur, on observe aussi beaucoup les gens qui sont avec nous.
Voilà, oui.
Donc, c'est sûr.
Et puis alors du coup, quand on en revient, est-ce qu'on a la première chose qu'on dit, c'est maintenant je vais dans ma douche ou dans mon bain, je reste à la maison un peu tranquille, ou est-ce qu'on a envie de repartir ?
Alors non, je pense qu'on a plus envie de se poser. En fait, le dernier jour, on est resté, pas tout le monde n'est resté dormir sur le bateau parce que certains sont partis directement après, mais ça dépendait de quand était l'avion. Mais du coup, le soir même, le capitaine nous a emmenés à Majorque dans un bar en fait où il va souvent. Et puis en fait, c'était un immense bar-restaurant en extérieur où il y avait des concerts et puis il y avait au moins 100 personnes là-dedans. Puis il y avait un concert où ils jouaient AC/DC et puis c'était blindé. Et puis en plus, on avait le mal de terre, on est arrivé là, on était là, waouh, qu'est-ce qui se passe ?
Ok. Voudrais-tu, on va doucement arriver au terme de cet entretien pour le moment, après qui sait, certainement qu'il y aurait d'autres interventions. Pourrais-tu nous dire quel a été un peu le parcours à la louche, hein, comme ça ? Donc, Baléares, c'est-à-dire que vous avez fait un circuit, comment ça s'est passé ? Alors, on choisit, je veux dire, ce cheminement ?
C'est le capitaine qui choisit, en fait, il fait toujours, presque toujours le même parcours. Lui, son but, c'est de trouver le plus de cachalots, parce qu'après, quand il sortent de l'eau, on les prend en photo, puis on les recense. Dans cette zone-là, en fait, en mer Méditerranée, il y a un endroit où la profondeur de la mer tombe d'un coup vers plus de 1800 mètres. Et puis c'est là où les cachalots ils vivent, en fait.
Ah, très bien, très bien.
Donc on est parti de Majorque, on est allé jusqu'à Ibiza, et puis après, il a voulu tenter d'aller quand même jusque presque la pointe de l'Espagne pour voir s'il y en avait, mais il savait qu'a priori, il n'y en aurait pas. Mais on a quand même été jusque-là, et puis après, on est revenu à Majorque.
D'accord. Merci beaucoup, Mao, pour cette, en tout cas, première partie d'entretien. On le rappelle, l'exposition, c'est aujourd'hui jusqu'à 21h au 25 rue du Vieux-Billard, ici à Genève. On y trouve les dessins que tu as commis, que tu as produits pendant cette expédition, comme tu viens de le dire, autour des Baléares, à la recherche
de cachalots.
Merci, de cachalots. Je voulais juste retrouver, mais là, j'arrive pas, mais je voulais donc redire le site internet qui te concerne, donc c'est www.mao.ch.
Oui.
Et également, je suis en train de le trouver, le site de la Swiss Cetacean Society. Là, je suis sur leur page Facebook, donc quoi qu'il en soit, il y a une page Facebook qui s'appelle Swiss Cetacean Society, et il y a certainement un site internet. Est-ce que tu connaîtrais par hasard l'adresse?
Normalement, c'est swisscetaceansociety.org.
Ok, très bien. Alors, on va dire... Oui, exactement, j'y suis. swisscetaceansociety.org. Merci beaucoup, Mao, et
merci.
Courage pour la suite des opérations ici.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.